Donc ce matin, vous avez vu toute la matinée, on a surtout évoqué la question du contenant. On a eu des discussions très techniques sur quelle est la meilleure architecture de la peine pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle puisse prévenir la récidive, pour qu'elle puisse aider les personnes à sortir de cette période de transition qu'on appelle la délinquance. Et ce que je vous propose, c'est qu'on investisse le contenu. Cette phrase-là, cette idée-là, elle n'engage que moi. En tant que praticien, de mon point de vue, il est assez vain de surinvestir le contenant si on n'investit pas le contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait précisément dans les interventions? Qu'est-ce qu'on y travaille? On a vu passer de nombreuses réformes pénales, et c'est vrai que les acteurs de l'administration pénitentiaire, ils vont beaucoup investir cette question du contenu des interventions. Donc ce que j'aborderai avec vous, c'est d'une part la question de la posture et des méthodes que ça implique. Et on finira par un exemple assez concret de programme qui est actuellement en cours d'implantation. Il n'y a pas de certitude dans nos métiers, on travaille avec des êtres humains, donc on fait des erreurs, on essaie d'avancer. L'être humain, sans doute, en tout cas, ça implique de prendre en considération de nombreuses variables. Donc, il faut rester très humble. J'évoquerai un exemple avec le programme d'alternative à la violence qui est actuellement en cours d'implantation dans le Lot-et-Garonne, en milieu ouvert, auprès de personnes en milieu humain. J'aimerais, pour commencer, qu'on commence à se poser la question suivante. Changer, ça implique quoi? Pourquoi je l'ai dit, dans nos métiers, dans l'administration pénitentiaire, on accompagne le changement, des changements qui sont plus ou moins profonds. Ça peut être accompagner quelqu'un dans une stabilisation professionnelle, trouver un emploi, trouver un logement, engager des démarches de soins, régulariser une situation administrative ou adopter de nouveaux points de vue. Faire un bilan sur son existence, son parcours, adopter de nouvelles façons de penser. Bref, ces changements-là, ils peuvent être plus ou moins profonds. Parfois, c'est des changements très profonds du mode de vie. Mais très concrètement, ça implique quoi de changer? Alors, ce que je vais vous demander, c'est de penser, on va se mettre à la place d'une personne qui doit changer vraiment des choses dans sa vie. Et vous allez... pensez à votre meilleur ami. Ce que je vous demande là, c'est de penser à votre meilleur ami à vous et à ce que ce ou cette meilleure amie vous apporte. Qu'est-ce que ça apporte un meilleur ami? Concrètement, ça apporte quoi? Un meilleur ami ou une meilleure amie, ça apporte... des moments de déconnade, des fois, mais aussi du soutien, de l'écoute, des discussions, des moments qui sortent de l'ordinaire. Mais en tout cas, c'est une personne qui a une influence sur nous, avec qui on a du plaisir à passer du temps. Alors admettons qu'on se connaisse bien, je viens vers vous, je vous dis, sérieusement, il faut que tu passes quelque chose parce que... Putain, mais ouvre les yeux, bordel. Tu vois pas tous les problèmes que ça t'apporte? Il faut que tu mettes tes distances avec cette personne. Réagis. Tu vois pas les conséquences que ça t'amène? En fait, voyez que dès qu'on va demander à une personne de faire des changements profonds comme celui-là, changer de fréquentation, ça peut amener un profond malaise. Je pense que si quelqu'un vient me voir et me dit « Yann, putain, change tes fréquentations, regarde, c'est ton meilleur pote, ça. C'est quelque chose. Il t'attire que des problèmes. » Je pense, moi, dans ma tête, si je ne lui dis pas, je dis, va te faire voir. Sérieux. Ça, c'est mon meilleur pote, il le restera. Toi, dégage. Donc, changer, c'est pas facile. Ça va demander une certaine méthode, un certain savoir-faire et un certain savoir-être. Là, on investit la question du contenu. Amener quelqu'un à engager des changements profonds, ça demande une certaine façon d'amener les choses. Alors plutôt que vous dire, moi Yann Morin, je pense que c'est comme ça qu'on peut engager des changements profonds, j'ai voulu faire appel au témoignage d'un expert, alors une personne qui est un expert du changement par rapport à son vécu du changement et par rapport à la dimension carcérale, Sylvain Châtelet. La première fois que je le rencontre, c'est à la conférence de consensus pour la prévention de la récidive. Sylvain Châtelet, il a été incarcéré à l'âge de 22 ans pour des faits de vol aggravé, hein, des vols à main armée, très graves. Il va être condamné à 12 ans et il sort en fin de peine, en vraiment sortie sèche, sans aucune forme d'aménagement. Et 13 mois après sa libération, il va récidiver. Quand je le rencontre, Sylvain, je le croise pour la première fois à la conférence de consensus, il vient d'exécuter la moitié de son existence en prison. Et il intervient, il est auditionné par le jury de consensus pour parler justement de qu'est-ce que ça implique d'être un condamné à une très longue peine en France. Et j'ai eu l'opportunité dernièrement de le recroiser sa route à l'ENAP, cette fois 5 ans après, plus de 5 ans après sa libération, alors que tout ça est loin derrière lui. Il a une vie totalement normale, un job, une vie familiale, des rêves. Il a changé profondément, il a raccordé totalement ce qui faisait son système de valeurs. Et je l'ai rencontré à l'occasion de vidéos qu'on a tournées sur ce qu'on appelle la sécurité dynamique. Donc j'ai voulu déjà lui demander qu'est-ce qui, de son point de vue, permettait, quelle était la meilleure méthode pour accompagner le changement d'une personne. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous dit, Sylvain, et puis on va retrouver à différents moments des éléments de son parcours qui nous aideront aussi à cheminer, nous, dans ce qui fait les ingrédients actifs d'une intervention efficace avec les personnes.
Il faut lutter d'un côté ou de l'autre pour ouvrir les consciences. C'est-à-dire quand on est détenu, de parler, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas cette capacité ou cette volonté, et surtout de l'autre côté aussi privilégier le discours parce qu'il faut amener. Alors on peut pas amener des gens par la force, on peut pas les contraindre, ça c'est ce que j'ai appris. La nature humaine est ce qu'elle est. Si vous voulez contraindre quelqu'un par la force, on retrouve des réflexes animaux et on réplique par la colère, par l'agression. Mais si vous avez cette capacité à pouvoir poser des mots dans le calme, à pouvoir amener les gens à s'interroger, à ce moment-là, on est sur une bonne base de départ. Et quand les gens commencent à parler, là on a un terrain qui est un terrain fertile sur lequel tout peut surgir en positif. Ouais.
Alors, ce qu'il nous dit, Sylvain, c'est que, quelle que soit notre place, qu'on soit CPIP, qu'on soit agent des forces de l'ordre, qu'on soit magistrat ou garde des sceaux, ben, ma foi, on est tous régis par les règles de fonctionnement de la nature humaine. Et ce qu'il nous rappelle, c'est que ce qui marche le mieux avec un être humain, c'est la communication. Communiquer, utiliser les bons mots, des mots bien placés. Et c'est aussi instaurer une certaine relation avec la personne. Dans le cadre des pratiques, l'évolution des pratiques pénitentiaires, on a eu de grands bouleversements avec de nouvelles pratiques qui ont introduit la formation initiale. Des méthodes qui ne sont pas récentes, la plupart elles sont anciennes, elles se développent dès la fin des années 70 et les années 80, notamment l'entretien motivationnel va faire partie de ce qui a infusé dans nos pratiques et aujourd'hui intégré au référentiel des pratiques opérationnelles. Si on prend l'exemple de l'entretien motivationnel, tous les CEPIP vont être formés à l'entretien motivationnel, notamment à l'esprit de l'entretien motivationnel. C'est quoi ce qu'on appelle l'esprit de l'EM ? C'est une posture altruiste. On se soucie du devenir de l'autre. C'est aussi une posture qui est ouverte à la collaboration, comme on le fait là. On considère que l'autre est à minima l'expert de lui-même, de sa propre situation, et ce qu'il a à dire a une valeur, est précieux pour nous, a une utilité. Donc, on va collaborer pour définir des objectifs de travail, des modalités. Et par ailleurs, c'est une posture non jugeante. Pas besoin de le juger. Dans, en tout cas, dans nos fonctions à nous, on va être plus dans un accompagnement au changement. Inutile de juger. On est surtout dans comment construire et comment arriver à résoudre certains problèmes. Mais c'est aussi une posture particulière. On va faciliter ce qu'on appelle l'évocation. Si on va essayer de faire ressortir chez la personne toutes ses potentialités, ses forces. Donc on va chercher au fond de lui à libérer des ressources personnelles. On a toute une série d'autres pratiques qui se rattachent à ce que Nicolas t'a appelé les pratiques fondamentales de suivi ou ce qu'on appelle les core correctional practices, qui sont largement développées en Europe du Nord. La Suède, par exemple, a largement développé les core correctional practices, qui sont pour beaucoup liés au travail social. Par exemple, c'est le fait que dans nos interventions, on doit consacrer une très forte attention à la résolution des problèmes du quotidien. Mais aussi l'idée que l'intervenant est un modèle de référence et il doit, à travers son attitude, sa façon de faire, avoir une influence positive pour la personne. Je reviendrai sur ces dimensions-là. En tout cas, la communication. Mais il y a aussi une autre dimension importante, c'est que notre façon d'intervenir auprès des personnes est largement tributaire de la façon dont on appréhende la question de la délinquance. Suivant la façon dont je vais comprendre le processus d'évolution d'une personne, ça va impacter ma façon d'agir. Très concrètement, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui fait qu'une personne comme Sylvain, qui, à l'époque où il commence à dégringoler dans la délinquance à 18-19 ans, on va essayer de comprendre comment ce jeune majeur qui a 18-19 ans, qui est en première S, va en très peu de temps enclencher un processus qui va l'amener dans le grand banditisme. En très peu de temps, c'est-à-dire à 18-19 ans, il commence à décrocher, à 22 ans, il fait un vol avec armes très grave, il va y avoir beaucoup de blessés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est nécessaire pour nous de nous donner les moyens d'avoir une compréhension de ce que c'est que la délinquance. Non plus parler de dangerosité, derrière la dangerosité, il y a quelque chose de très nébuleux, très vague, mais essayer de voir qu'est-ce qui participe à ça et qui explique qu'une personne va évoluer à un moment donné dans des passages à l'acte qui peuvent s'aggraver. Donnons-nous les moyens de comprendre, et c'est ce qu'on va faire là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le témoignage de Sylvain sur cette question-là, qui est ben, finalement, qu'est-ce que c'est que la délinquance ? Et on va avoir la même posture qu'un CEPIP qui sera en train d'essayer de comprendre une situation dans ce qu'on appelle une démarche d'évaluation initiale. On écoute et on essaie de comprendre surtout les mécanismes qui ont entraîné un processus. Donc vous serez attentif à ce qui a pu accélérer un processus, mais aussi à ce qui aurait pu protéger la personne contre ce processus qui amène à un moment donné à commettre des passages à l'acte.
Et en fait, quand j'ai eu ces difficultés familiales, donc séparation compliquée, très compliquée parce que j'avais un père qui était violent, et à un moment, en fait, j'ai été confronté à devoir affronter mon père. Donc il y a un moment où on ne peut pas prendre la défense de sa maman, parce qu'on est petit. Et puis on arrive à l'adolescence. Je faisais de la compétition de haut niveau déjà, et un jour j'ai dû affronter mon père physiquement. Voilà. Et la conséquence, c'est qu'il n'a pas eu le dessus, donc une incompréhension de sa part. Je me suis retrouvé à la rue. Et c'est comme ça en fait qu'à un moment je me retrouve dans une situation où je ne sais plus trop comment faire. J'aurais dû trouver des ressources pour continuer à battre. Et c'est ce que j'avais fait pendant un moment. C'est-à-dire que dans cette période difficile, j'étais donc en première scientifique au lycée privé. Donc, lycée privé, il fallait payer les cours. Et le premier trimestre, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire que le soir, je partais en vélo. Alors, pour les gens qui connaissent, je partais d'Antibes, j'allais jusqu'à Grasse en vélo, c'est que de la côte, c'est 20 et quelques kilomètres. Je commençais à 8h, je finissais à 4h du matin. Et à 4h du matin, je rentrais, mais je prenais les cours à 8h. J'ai tenu un trimestre. Voilà. J'ai tenu un trimestre et après physiquement, j'arrivais plus. Et c'est à ce moment-là que je fais des mauvaises rencontres et que de petits larcins, assez rapidement, on en vient à commettre des faits qui sont de plus en plus graves. Donc, assez rapidement, parce que j'ai 18-19 ans, et la première fois que je suis incarcéré, je viens d'avoir 22 ans. Donc, le laps de temps est très très court de la déviance du moment où je commets des actes de vol, de larcin et après de braquage. Et le problème, donc ça je me suis reproché après, je me dis toujours tu aurais dû avoir la force de continuer. J'ai pas trouvé d'excuse par rapport à cette situation de me dire ça ne justifie en rien. Mais bon, à un moment, comme je le dis, j'ai chuté dans le caniveau. Je suis tombé, je ne me suis pas relevé.
Mais tu as ce regard-là aujourd'hui, mais à cette époque-là, comment tu vivais les choses? Tu vois, c'était quoi ton état d'esprit?
Alors, mon état d'esprit, il était, je me disais, tant que j'attaque pas les personnes, physiquement, j'avais le sentiment de ne pas causer de mal. Alors que le mal, quoi qu'il en soit, il est réel. Et le jour où j'ai pris la décision de passer une étape supplémentaire qui était des actes de braquage, comme je ne suis pas fou, je me suis dit bon, là on passe un palier, ça peut être dangereux, est-ce que tu as la capacité à le faire, est-ce que tu es prêt à le faire, est-ce que tu es prêt surtout à affronter les conséquences si ça se passe mal. Et j'ai une telle confiance en moi. Mais de gamin, j'ai toujours été comme ça, que je suis parti naturellement. Et le problème, c'est que j'ai abordé ce moment de la vie, de ma vie, comme quelqu'un va au travail, quoi. En mettant, ce que j'expliquais, toutes mes capacités physiques et intellectuelles,
ta détermination.
Ma détermination qui est inébranlable, au service de ce qui est le crime, quoi, tout simplement. Donc ça a été... au final catastrophique, puisqu'il y a eu des actes qui ont été quand même très graves. Et en fait, c'est dans la prise de conscience des actes les plus graves, puisqu'il y a un moment, je suis retrouvé dans une fusillade, où il y a eu des blessés. C'est prendre conscience de ce qui s'était passé qui a été aussi à la base, vraiment la base de départ de dire qu'est-ce, voilà. Là, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et à partir de là, j'ai mis tous mes efforts à changer. Mais le mal était fait, quoi.
Alors, ce témoignage, il est précieux pour nous. Parce que justement, il apporte beaucoup d'éléments de compréhension sur ce qui amène un enchaînement, ce qu'on appelle nous, un enchaînement au risque dans notre jargon de s'équipe. Mais surtout, ça nous permet de voir... que dans le parcours de Sylvain, on a les passages à l'acte, ils sont étroitement liés à un processus qui est dynamique. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça à un instant T, c'est un processus qui est dynamique, dans lequel Sylvain prend des décisions, à un moment donné, sous l'influence de différents facteurs liés à son environnement, son milieu. On voit notamment qu'il y a des facteurs comme sa vie familiale, ce qui s'y passe, ce qu'il y vit, mais aussi sa situation scolaire, pas évidente, loin de là. Il nous dit qu'il est épuisé physiquement à un moment donné. Il nous parle aussi d'autres dimensions, comme ses fréquentations. Mais au-delà de ces dimensions, il y a également l'influence de ses propres raisonnements, ses propres pensées. C'est-à-dire qu'il a des rationalisations, des modes de pensée qui l'autorisent à aller plus loin et passer des crans supplémentaires qui vont amener une escalade dans la violence. Autre élément, c'est qu'on voit parallèlement à ça, on a des éléments plutôt positifs. On a quelqu'un qui a des aptitudes personnelles. Il est en première S quand il décroche. Il a des aptitudes physiques et il a aussi d'autres capacités, notamment sa détermination sans faille dont il nous parle. Néanmoins, vous voyez que la scolarité, par exemple, ne fait pas le poids par rapport à d'autres influences. Par ailleurs, ses capacités personnelles, on voit bien que accompagner quelqu'un dans le développement de ses capacités ne devient ce qu'on appelle un facteur de protection qu'à condition d'être rattaché à un système de valeurs. Dans son cas, il nous dit « il a mis toutes ses capacités personnelles au service du crime ». Ça veut dire qu'il y a la question du système de valeurs qu'on va développer, qu'on va soutenir, qui est aussi déterminant dans l'amorce de cheminement personnel. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a, en écoutant la personne, essayé d'identifier ce qu'on appelle, nous, des facteurs de risque et des facteurs de protection. On en a besoin parce que c'est précisément ces aspects qui vont constituer des sites d'intervention pour nous. Agir sur ce qui crée une influence négative pour la personne et, au contraire, agir sur des facteurs qui protègent la personne. Donc c'est ce qu'on fera dans le contenu même des interventions. Et vous comprendrez aussi que, et ça c'est ce qu'on appelle le paradigme cognitif comportemental, c'est plus de 50 ans d'études sur le fonctionnement humain et son apprentissage, c'est que la délinquance, c'est avant tout un processus d'apprentissage. Quelqu'un qui est dans la délinquance, qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend des raisonnements, des façons de penser, des comportements, en étant exposé à des facteurs qui vont soutenir ces apprentissages-là, les fréquentations, la famille parfois, etc. Et c'est ça qui va développer. Le cœur de notre métier, ça va être de développer au contraire d'autres dimensions qui vont soutenir des apprentissages qu'on appellera pro-sociaux, par opposition pro-criminels. Sylvain insiste également sur, voyez, l'accélération rapide des passages à l'acte et une entrée dans la délinquance qui se fait très vite. C'est en quelques années qu'il va s'inscrire dans la délinquance. Bon, une question que je me posais, c'est tu rentres très vite là-dedans, mais tu mets combien de temps à prendre conscience de ce que tu fais ? Est-ce qu'on peut mettre beaucoup de temps des fois à se rendre compte de ce qu'on a pu faire, mais lui, il met combien de temps à s'en rendre compte ? Donc c'est ce qu'on va voir, justement, cette prise de conscience. Dans son cas, Sylvain, il va lui en falloir combien de temps ?
Quand j'arrive à Nice, on met au cachot pendant 9 mois. Donc je me retrouve seul dans cette pièce, à ne voir personne, mais dans des conditions quand même très particulières, voire difficiles. Et c'est là que j'ai cette prise de conscience. Donc c'est au tout début de mon incarcération, c'est 5-6 mois après mon incarcération. Et je prends conscience, je dis, mais si la personne était morte. Et là, en fait, c'est un choc pour moi parce que je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que j'ai été. Je retrouve mes valeurs de judoka, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. À un moment, je me dis, mais il n'y a plus de vie. En fait, ça s'arrête là, je comprends que ça s'arrête là. Parce que vous en prenez un représentant de la force publique, on ne parle plus. C'est la sanction, elle est maximale. On ne parle plus, on prend la clé et on la jette. Donc je suis là, je me dis, mais heureusement, le destin a fait qu'il n'a été que blessé. Heureusement pour lui, parce que j'aurais eu le poids d'avoir la vie d'un homme qui entache mes mains et mon âme. Et on parlait plus de rien, quoi. Et heureusement aussi pour moi, parce que quand je prends conscience de ça, je dis, mais des deux côtés, c'était un drame des deux côtés. Ça a déjà été un drame, tellement c'était compliqué, quoi, une affaire dramatique. Et c'est la base de départ, en fait. C'est la prise de conscience.
Ouais. À ce moment-là, tu as cette prise de conscience. Donc vous voyez que l'entrée dans la délinquance, elle peut se faire très rapidement. La prise de conscience, elle peut se faire aussi très vite. Quand on parle du choc carcéral, quelqu'un qui arrive en prison, c'est aussi ça qui se passe. On a dit ce matin, on pourrait voir la prison comme l'école de la liberté aussi. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on observe nous, c'est souvent quand quelqu'un arrive en prison, il y a un retour de la pensée qui se fait. Et il y a beaucoup, il y a un bilan qui se fait sur un inventaire sur ce qu'on a fait, son passé, son histoire. Vous voyez, dans le cas de Sylvain, cette prise de conscience, elle est aussi très violente. Elle est très violente et fréquemment, ce qu'on va observer, nous, quand on accompagne les personnes, c'est qu'on aura parfois des stratégies qui visent à ne pas se confronter à cette prise de conscience. Donc assez naturellement, on a des mécanismes de défense qui vont s'installer. L'être humain, il a ses protections. Pour ne pas s'exposer à la violence de cette prise de conscience, on aura des personnes qui peuvent minimiser, voire rejeter leurs responsabilités. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. C'est une vraie onde de choc profonde. Donc quelqu'un qui prend conscience de ce qui lui est arrivé, on a intérêt, nous, à l'accompagner dans ce cheminement-là. Les taux de suicide sont importants chez les personnes qui ont des longues peines, qui sont prévenues en attente de jugement. À la veille d'audiences comme des cours d'assises, c'est également des moments critiques. Il est nécessaire d'accompagner les personnes dans ce cheminement et cet éveil un peu de la conscience qui est en train de se passer. Une chose qui m'a interpellé lors de cet échange avec Sylvain, c'est toutes les mains tendues qu'il a pu recevoir pendant sa détention. Il a eu énormément de personnes qui sont venues vers lui, qui lui ont apporté de l'aide et un soutien précieux. Ces personnes, on peut les appeler des aidants. Ce n'est pas seulement des CPIP, loin de là. Ce sont des personnels de surveillance, des moniteurs de sport, des gradés. Par exemple, il me parle beaucoup du gradé du quartier disciplinaire, de la maison d'arrêt de Nice, de l'époque. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est la façon dont ils m'en parlaient plusieurs décennies après. Ils se souvenaient de leur regard, de l'expression de leur visage, de leurs mots précis. Vous voyez ce qu'ils m'ont dit, c'est que ces personnes, il les garde au fond de lui, c'est presque comme quelque chose qui s'était déposé en eux. Vous savez, on utilise souvent l'expression de l'effet Pygmalion, dès qu'on accompagne quelqu'un en éducation, on va utiliser cette idée-là, que l'effet Pygmalion, c'est qu'à travers ce que je dis de l'autre, à travers ma façon de nourrir de l'espoir dans ses capacités, c'est comme si je déposais en lui des pigments positifs. Là, ce qu'il nous décrit, c'est l'influence de modèles, à un moment donné, de personnes qui lui sont venues en aide, en lui donnant des opportunités, par exemple de travailler à la centrale d'armes, c'est de devenir un détenu facilitateur, qui contribue à la médiation des violences au sein de l'établissement. Ce sont des choses qui ont été des actes fondateurs pour lui, dans un changement. D'une certaine façon, on voit que dans son cas, on a une évolution, une prise de conscience rapide, mais ce qu'on aura toujours comme angle mort, c'est une dimension, on a assez peu accès, c'est le poids du rôle dans lequel sont enfermées nos personnes. Ce que me dit Sylvain, c'est qu'il lui a fallu très peu de temps lui pour prendre conscience de la gravité de ce qu'il avait commis. Mais il lui a fallu 10 ans pour se sortir d'un rôle, celui d'un braqueur. À 10 ans pour arriver à se libérer de cette étiquette, ce rôle, ce statut, et pour pouvoir accéder à de nouveaux rôles. Et donc ça, c'est des choses, je parle d'angle mort, c'est des choses qu'on ne perçoit pas toujours, mais en effet, il est difficile pour les personnes d'investir de nouvelles responsabilités, de nouveaux rôles aussi, parce qu'en établissement, mais pas uniquement, certains actes sont associés à une valorisation, ou pas. Mais en tout cas, il est très difficile pour les personnes d'arriver à s'affranchir de ces rôles-là, de ces identités-là. Donc on utilise le terme de désistance pour ce qui a trait à ce cheminement dans cette transition vers la sortie de délinquance, un cheminement qui est pas seulement lié à des facteurs externes, mais c'est aussi lié à un changement identitaire. Et ce changement-là, on le voit, il n'est pas si simple que ça. Il y a une question que je me suis posée, c'est que, en fait, ce que m'indiquait également Sylvain, c'est que, au bout de 4 ans, concrètement, il était prêt sur sa première peine. Il avait pris 12 ans la première fois, Et au bout de seulement 4 années, il était prêt à relever les défis de la liberté. Sortir dehors, exécuter sa peine dehors. Il a fait la moitié de sa vie derrière les murs. La question que je me suis posée, c'est comment on gère ça, ce décalage entre le temps du changement humain, où un être humain, il est prêt à relever les défis et à assumer ses responsabilités dehors, et ce temps de la justice, qui est différent, qui est très long. Comment on gère ça? Donc j'aimerais que vous puissiez écouter cette question-là, parce que c'est le quotidien de condamnés longues peines. C'est le quotidien de personnes qui sont suivies aussi dehors pendant des périodes très longues. 5 ans, vous imaginez ce que c'est? Et 15 ans, vous imaginez ce que c'est? 15 ans de suivi dehors, ou un suivi perpétuel. C'est, en tout cas, ce qu'il va nous dire, c'est comment concrètement on fait pour ne pas sombrer dans le chaos et le désespoir. Une peine efficace, gardons à l'esprit que c'est une peine souple, qui reste en adéquation avec l'évolution d'un être humain.
On sent en tout cas, à travers ce que tu dis, qu'il y a cette question du rapport au temps. Il y a un temps qui peut s'étirer alors qu'on est prêt.
Après,
il y a la vie a une vraie valeur, c'est-à-dire qu'on mesure particulièrement la valeur de la vie quand on est dans
cette période. C'est aussi toute la difficulté de la détention. Des études qui disent que la limite acceptable, c'est 4-5 ans, et après ça pose des désordres. Ça peut poser des désordres, une nature profonde, psychologique. Le problème, c'est qu'il y a des actes qui sont tellement graves que les peines ne peuvent pas être à la hauteur de ce moment-là. Et c'est là que toute la difficulté est, c'est que, quand bien même des gens qui sont condamnés à des peines très importantes ont cette prise de conscience et cette volonté assez rapide, il faut ensuite aborder... passer ce laps de temps qu'on peut humainement accepter comme une peine juste, passer ce moment où la peine perd de son sens.
De son utilité.
De son utilité et de son sens. Et c'est là où il faut être fort, parce que on doit choisir entre, au niveau des sentiments, laisser naître de nouveau la colère, de sentir que c'est injuste d'être gardé si longtemps, parce qu'au fond de soi, on sait, il faut en faire son deuil, c'est comme ça. C'est tout simplement, c'est... Là, on peut rien faire, on peut que prendre en patience, c'est tout.
Voilà. Donc ça veut dire aussi...
Et ne pas perdre espoir, surtout ne pas perdre espoir. Voilà.
Donc ce temps-là, du changement humain, de la prise de conscience, du moment où une personne est prête... on pourrait dire à désister, à engager cette transition qui va l'amener vers une vie qu'on dit responsable, libre et responsable, et pas en adéquation avec le temps pénal. Plus on rigidifie la peine, plus on complique la possibilité d'individualiser la peine, plus aussi on crée une dissonance, ce qu'on appelle une dissonance, c'est vraiment cette disharmonie entre une peine et le changement profond que vit la personne, le moment où elle est prête et le moment où elle ne peut pas engager ce changement-là. Quand on loupe le coche, au rendez-vous, on peut avoir le désespoir, voire aussi de la récidive. Donc c'est pour ça que la souplesse de la peine est très utile. Dans le cas de Sylvain, on a quelqu'un qui avait les capacités, et notamment qui a investi son parcours de détention. Il me disait comme s'il était dans un camp militaire, c'est-à-dire qu'il s'est infligé une discipline. Le soir, il se couchait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'imaginait en train de faire du vélo à tel endroit. Tiens, ce soir, je vais aller à tel endroit. Et il se projetait. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en prison, il est aussi dehors. Il se projette dans l'extérieur. Ça demande une énergie importante. Et ce qu'on voit, c'est que, en ce qui concerne Sylvain, on a un certain nombre de facteurs qui, pendant sa détention, vont aider ce cheminement-là, et font qu'aujourd'hui, en dépit de 25 ans passés en prison, on a quelqu'un qui est parfaitement inséré. Depuis plus de 5 ans, n'a plus aucun problème, et finalement vit la vie à laquelle il aspirait. On a des facteurs comme la scolarité. Ben, dès en fait le début de son incarcération, il va reprendre les études. Mais il y a aussi le travail en détention. Il y a aussi tous ces aidants qui vont lui apporter de l'aide, de la confiance, lui permettre d'accéder à des opportunités. Et il parle aussi de nouvelles relations. En prison, il n'y a pas que des mauvaises fréquentations, il y a aussi des fréquentations qui aspirent aussi au changement et qui vont venir des soutiens. Et enfin, il y a ce qu'il appelle la voie de la souplesse. C'est une discipline de l'esprit positive, toujours tournée vers l'action et quelque chose qui est positif. C'est ce qui explique qu'on a quelqu'un qui a réussi à désister de la délinquance. Donc la leçon qu'on peut en tirer, c'est que nous, pour que le contenu des interventions soit efficace, il nous faut investir dans ces domaines-là. Tous ces facteurs qui protègent, qui créent des opportunités de changement, qui permettent de développer des compétences personnelles, mais aussi de développer de nouveaux cercles relationnels, permettent cette accélération. C'est notre rôle, accélérer la sortie de la délinquance vers une nouvelle vie. Mais ce dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est d'un projet qui est en cours d'implantation en milieu ouvert. C'est-à-dire, la prison, c'est bien, mais là, ce qu'on veut voir aussi, c'est dehors. Qu'est-ce qui s'y fait ? J'étais attentif à une chose, on a beaucoup parlé d'une dimension, on a parlé surpopulation carcérale, beaucoup. Et je remarque qu'on parle assez peu de la surpopulation en milieu ouvert. Et pourtant, bah, l'évolution, elle va plutôt dans une augmentation de plus en plus importante de personnes suivies dehors. C'est pas anodin, parce que le fait d'avoir une surpopulation en milieu ouvert fait aussi qu'un CEPIP va avoir à suivre un nombre de plus en plus important de personnes. Moins de temps à consacrer au contenu, ça devient un casse-tête. Donc je vous dirais, dans le contexte qu'on va voir là, d'un programme en milieu ouvert auprès de 8 personnes suivies dehors, où on a fait ce programme dans ce lieu assez sympa, c'est un haras, et vous allez comprendre pourquoi. On aurait pu choisir une boulangerie pour manger des pains au chocolat. Non, on a choisi un haras parce que ben, y avait des choses intéressantes pour nous. En fait, il y a beaucoup d'autres défis qui vont se poser en milieu ouvert, mais il y avait aussi les défis du principe de réalité. Mes collègues, co-animateurs, avaient des effectifs assez chargés à ce moment-là. 140 personnes dans leur effectif, donc il a fallu penser certaines modalités. On s'est tourné vers un programme d'alternative à la violence, mais on va voir très concrètement c'est quoi les enjeux d'un programme comme ça en milieu libre. On va voir ces situations-là. Première situation, je suis dans le bus avec ma compagne et mes enfants, devant moi, devant nous. Une personne est en état d'ébriété. Elle se retourne, elle me regarde. Première situation, c'est chaud. Deuxième situation, je suis dans la rue, en train de rentrer chez moi, il est tard. Derrière moi, un jeune me siffle dans mon dos. Il me cherche des noises. C'est bon ça aussi, hein ? Troisième situation, je vais voir mon patron pour qu'il me paye mes heures supplémentaires. On n'est pas dans la fonction publique, là. Hein. On est dans le privé. Pour qu'il me paye mes heures supplémentaires, il m'envoie couler en me disant qu'il n'a pas le temps pour ça. Toutes ces situations-là, elles ont des points communs. Premier point commun, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces situations-là. D'ailleurs, c'est ce genre de situation qu'on va rencontrer dans notre quotidien. C'est des situations de conflit interpersonnel assez classiques. Mais imaginez bien que plus vous avez d'emmerdements dans votre vie, des problèmes, plus vous aurez ce genre de conflit interpersonnel qui va se présenter. Deuxième point commun, toutes ces situations-là, elles sont propices à l'émergence de la colère et aussi propices à des passages à l'acte violents. Le dernier point commun, toutes ces situations nous ont été rapportées par les participants au programme d'alternative à la violence. Ça faisait partie de choses de leur quotidien qu'elles vivaient pendant le programme d'alternative à la violence. Donc ce programme-là, dont je vais vous parler, il vise à répondre à ce genre de choses-là. Pas un passage à l'acte qui remonte à 10 ans. Non, ce genre de situation du quotidien où des passages à l'acte peuvent avoir lieu. Alors, on n'a pas créé un programme, On a parlé de la pertinence de s'inspirer de programmes étrangers. Ça n'engage que moi, mais je constate que la délinquance n'a pas de frontières, l'approbation non plus. Donc, aux frontières de nos pays, ben on a des collègues en fait qui font le même métier, qui ont des programmes qui sont très intéressants. Et quand c'est possible, il est intéressant de collaborer avec nos collègues d'autres pays. Donc c'est ce qu'on a fait là, avec ce programme d'alternative qui présentait un certain nombre d'intérêts. Le premier intérêt majeur, c'était les garanties apportées par ce programme, ses objectifs aussi et ses modalités. Sur le premier aspect, les garanties, c'est que le programme d'alternative à la violence, il a des bases solides. Il a été mis en place au Québec auprès de centaines, voire de milliers d'adolescents sous main de justice. Autre point intéressant, c'est un programme qui a été élaboré, qui est directement inspiré des travaux de Goldstein et Glick, qui ont travaillé et mené des recherches qui sont des références dans le cadre de tous ces, toutes les compétences qui permettent d'éviter d'avoir des comportements violents. De leurs travaux est directement issu un programme qui n'est pas libre de droit, hein, il est payant, c'est le programme Aggression Replacement Treatment with the English. Donc ART, qui est un programme très développé qui se met en place dans beaucoup de pays et qui a été évalué comme ayant des effets dans la réduction du risque de récidive de violence. Enfin, pour nous, notre intérêt, c'est qu'il y avait des manuels disponibles pour pouvoir animer les ateliers. Et enfin, un programme assez accessible pour nous, 8 ateliers d'une heure et demie, pouvant se mettre aussi bien en place en milieu libre qu'en milieu fermé. Donc en gros, pour nous, on bosse dedans, on bosse dehors, peu importe le contexte, on intervient auprès de personne, qu'elle soit dedans, dehors, ça n'a pas d'importance. Donc, l'autre intérêt pour nous, c'est que ce programme-là, il vise à réduire le risque de récidive en matière de violence. Comment ? En agissant sur deux éléments, les comportements et les pensées. Ce programme, il se rattache à l'approche cognitive comportementale. Dans le programme, on va accompagner les personnes dans le développement de compétences. On va soutenir des apprentissages. Une première compétence qu'on va développer, c'est la capacité à abaisser son niveau de colère. Et l'autre compétence, c'est la capacité à mobiliser des alternatives à la violence. Vous voyez, par exemple, avant l'intervention, je respirais bien. Une bonne respiration pour gérer mon stress. On n'y fait pas attention à toutes ces choses-là, mais ce sont des techniques assez comportementales, basiques, mais qui nous permettent de gérer des émotions. Ce sont ces choses-là qu'on va travailler avec eux pour gérer déjà la montée de la colère et après développer d'autres types d'alternatives. Alors concrètement, un atelier type, ça se passe comment ? Un atelier type, ça se passe déjà par un temps d'accueil. Temps d'accueil, c'est « Tiens, salut, comment tu vas ? C'est bien passé la dernière fois, qu'est-ce que tu as fait ?» Et donc, tu viens en avance aujourd'hui. C'est bien, super. On discute, c'est très informel. Vas-y, mais quoi ? Oh, sérieusement, c'est pas du boulot, ça. C'est primordial. Parce que si vous voulez, on va bosser dans cet atelier, on va apprendre, on va mettre en pratique des choses. On va créer une alliance, une dynamique et un climat favorable au boulot. C'est comme si vous, ici, je sais pas, il n'y avait pas de lumière, il y avait du bruit, vous ne pourriez pas apprendre correctement. On va déjà accueillir. Plutôt. Donc il y a premier temps l'accueil des personnes. Il faut de la convivialité pour bien travailler. Sinon, ensuite, l'autre temps, c'est on va présenter l'apprentissage. On présente, au cours de cet atelier, on va voir tel apprentissage. Je vous donne l'exemple du premier atelier. Il porte sur l'apprentissage des techniques qui permettent d'abaisser le niveau de colère. C'est assez simple. Et à chaque fois, on va viser des compétences bien précises, parce qu'à chaque atelier, on en ajoute. Donc on va dire, au cours de cet atelier, on va apprendre à utiliser des techniques pour abaisser le niveau de colère. Premier élément, on va s'entendre sur ce qu'on appelle un déclencheur externe de violence. Un déclencheur externe de violence, c'est quelque chose qui est une situation qui est extérieure à moi, je peux observer, et qui va déclencher chez moi de la colère. Ça peut être, par exemple, je croise mon patron et puis dis donc, t'es en retard, Yann, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un élément extérieur à moi, chez moi ça déclenche de la colère. Ce terme-là, on va systématiquement l'utiliser, déclencheur externe. Ensuite, on va s'entendre sur autre chose, c'est quoi les indices de colère? Donc on va voir qu'il y a déjà des indices physiques de colère. Pourquoi vous voyez-vous que quelqu'un est en colère? Serre les poings, il est plutôt rigide, il s'avance, il a un visage plutôt fermé. On est sur de la communication de base, mais dites-vous bien qu'à chaque fois, on en rajoute. Ok, les indices visibles, mais il y a aussi des indices non visibles. J'ai le cœur qui part à fond, j'ai les guiboles qui tremblent, ça c'est pas visible, mais moi je les perçois. Ça me permet d'être attentif à mes indices de colère. Et ensuite, on va voir quatre techniques pour s'arrêter. La respiration, une pensée positive. C'est quoi, franchement, là, ce soir, t'as ta bonne série à la télé, lâche ta affaire, ça vaut pas le coup de te prendre la tête. Donc, une pensée positive. Ou encore, plutôt se mettre à distance. Il y a quelqu'un qui, si on commence à se prendre la tête tous les deux, on va se rapprocher, puis ça va finir en... ça va pas bien finir. Donc, le réflexe qu'on va avoir, qui est comportemental, c'est plutôt on va se retirer, faire un pas en arrière, rétablir une distance, et on vise à abaisser le niveau de colère. Et respirer. C'est bon, hein. Ça, c'est la première étape. Après, on va en rajouter d'autres au cours des ateliers. Donc, il y a l'apprentissage, et après, on fait un modelage. Ce qu'on appelle un modelage, c'est que l'apprentissage, là, on va l'appliquer à une situation concrète. Celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle-là qu'on va jouer. On fait deux jeux de rôle, c'est comme si tu étais mon co-animateur. Toi, t'es le gars, là, qui vient me chercher des noises, et moi, je dois appliquer ces apprentissages avec toi. Concrètement, tout ce qui se passe dans ma tête, je le dis aux voix. Putain, j'ai envie de le défoncer grave, ça prend bien. Ok, j'étais attentif à mes déclencheurs internes. Je fais un pas en arrière. Je me mets à distance, puis je reviens. Ok, j'ai pris le temps d'écouter. Bref, je vais dire à haute voix les apprentissages. On en fait deux. On donne à voir ce qu'on doit mettre en application. Et on choisit quoi comme scénario? Des situations du quotidien, des situations qui sont proches de ce qu'ils vivent eux. Et après, les participants vont mettre ça en application dans des jeux de rôle. Ils se mettent par eux. Ça commence comme ça. Dans cette situation, je suis l'acteur principal. Dans la situation, je suis dans un magasin avec ma compagne. Un client sort, me bouscule et me traite de bâtard. C'est chaud, ça. Hein, je vais vous dire, les premiers modelages, c'était pas évident, les premiers jeux de rôle, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'autres façons de faire que la violence. Ils nous disaient quoi? Mais putain, mais ce mec, il fait ça, mais je le défonce. Je lui arrache la tête, mais qu'est-ce que... Moi, je sais pas comment faire. C'est au fur et à mesure, au fil des ateliers... c'est devenu moins difficile, à force de répétition, à force d'appliquer ça aussi au quotidien. À la fin des ateliers, c'était plus compliqué pour eux. Mais au début, c'était compliqué. Parce qu'habituellement, un truc comme ça, ça se traitait à base de coups de tête, un bon coup de tête, vous voyez? Et bien là, c'est vrai qu'on développe d'autres façons de faire. Donc on fait le jeu de rôle, admettons, on le fait tous les deux, je le fais un coup, et une fois qu'on l'a fait, moi, je suis l'acteur principal, et les animateurs, ils vont dire « Alors toi, tu étais l'acteur secondaire, qu'est-ce que tu as pensé de la mise en pratique de Yann ?»« Moi, j'ai bien repéré ces indices de colère, tu vois. » Ok. Après, on va demander aux autres qui étaient observateurs, « Vous avez repéré bien quoi ?»« Moi, j'ai repéré qu'il utilisait une technique comme « il a fait le pas en arrière, puis j'ai vu qu'il respirait. » Et qu'aussi, il a utilisé l'anticipation, il a pensé aux conséquences là, de ce qui allait se passer. » Ok. Après, les animateurs se prononcent et on finit par la personne. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle la rétroaction et surtout du renforcement. Un comportement, un apprentissage, a plus de probabilité de se répéter quand il est directement associé à une gratification, un sentiment de réussite, et plus il est répété. C'est-à-dire qu'à chaque atelier, on va répéter les mêmes choses. L'enjeu, c'est qu'à la fin d'un atelier, on va faire quoi? On remet à la peau aux participants un document qu'on appelle une fiche d'auto-observation et dire « Ok les gars, on a fini? dure 1h30. Maintenant, vous mettez ça en application dans votre quotidien. Et ils ont des fiches d'auto-observation, ils vont dire, ils vont décrire deux situations où ils ont mis en application ces situations-là. L'enjeu, c'est ce qu'on appelle la généralisation, ces apprentissages qu'ils les appliquent dans leur vie quotidienne. Alors, ça peut paraître assez simple comme ça, mais on va voir qu'on progresse au fur et à mesure. Concrètement, dans le cadre de ce programme qu'on a mis en place entre février et avril 2019, on avait un atelier par semaine. Donc, le lundi matin, on se retrouvait au Haras de Villeneuve-sur-Lot et on faisait notre atelier. Et on se retrouvait comme ça tous les lundis matins. On a eu le côté un peu exotique de notre affaire, parce que ce n'était pas initialement comme ça que ça se faisait dans le programme tel qu'il s'est fait au Québec, c'est qu'on a associé ça à ce qu'on appelle la médiation équine. La médiation équine, elle a eu deux buts pour nous. Au premier atelier, à la première séance, qui était un temps de présentation, c'était d'engager une dynamique dans le groupe. Quand vous avez un groupe de participants, ce qui est compliqué, c'est de créer une alliance dans le groupe. Première fois qu'ils se voient, nous les participants, ils se regardent, ils se mettent chacun dans leur coin, personne ne parle. Puis nous, on se regarde, on se dit « Waouh, ça va être chaud, mon pote, ça va pas être évident, là !» Ouf, gros moment de solitude. À la fin du groupe, chacun part dans son coin. On a deux, trois qui se connaissaient déjà, ils restent ensemble. Et le dernier atelier, tout le monde est ensemble. Plusieurs arrivent ensemble. Tout le monde part ensemble. Vous voyez le truc ? La médiation équine, ça apporte une vraie plus-value. Pourquoi ? Parce que l'animal, le cheval, lui, il vit dans l'instant. Nous, on vit dans l'avenir et on vit dans le passé. Lui vit dans l'instant. On ne ment pas un cheval. C'est pas possible. Donc, quand on travaille sur les émotions, ouais, ça vous pouvez le noter. Yann Lorrain dit on ne ment pas un cheval. Ouais, c'était vraiment le truc. La plus-value du séminaire, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que le cheval, il va réagir immédiatement. Et quand on travaille sur la communication, le cheval, il réagit de suite. Mais admettons, j'étais un peu brutal. Lui est déjà passé autre chose. J'ai le droit à l'erreur. Donc je vais modifier ma façon de faire et je vais voir immédiatement que le cheval, ok, c'est un mieux. Donc ça permet de travailler là-dessus. Premier objectif, c'était travailler la dynamique dans le groupe et ça a bien marché. Deuxième objectif, c'est notre généralisation des apprentissages. Nous, on voulait, sur certains ateliers, qu'ils puissent immédiatement après tester tout ça. C'est beaucoup de communication qu'on fait. Donc juste après l'atelier, on partait avec les chevaux et on mettait en application tout ça. Ce que nous ont dit les personnes, c'est que ça les avait beaucoup aidés. Mais peut-être le meilleur compliment qu'ils nous ont fait, je t'en ai parlé, c'est quand certains nous ont dit « En fait, on sent que vous êtes vraiment là pour nous aider. » Quand vous êtes ces pipes, quelqu'un vous dit ça, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un perçoit bien que vous êtes là pour vous aider, ça, c'est des indicateurs d'efficacité. Ça veut dire que, ouais, il a ce sentiment-là, peut-être bien en effet que vous êtes en train de l'aider. C'est très positif. Ça veut dire qu'il y a une bonne qualité d'alliance de travail, donc on travaille bien. Donc ça, c'était l'enchaînement qu'on a choisi. Maintenant, voilà le profil de nos participants. Ça, c'est ce qu'on fait, c'est comment on évalue le profil de nos participants. On ne choisit pas n'importe qui. Il faut choisir des personnes qui ont besoin de faire un travail comme ça. Si on choisit des gens qui n'ont pas besoin de faire un travail comme celui-là, on peut avoir des effets négatifs, massifs, peut-être t'en parleras. Mais c'est vrai que d'avoir des interventions auprès de personnes qui n'ont pas tellement de problèmes, qu'on dit à bas risque de récidive, ça peut augmenter les risques de récidive. Donc on évite de faire n'importe quoi. On voit dans le profil de nos participants que, pour l'essentiel, ils sont là précisément pour des faits de violence. Ils ont déjà des antécédents. Certains ont des antécédents qui sont plus nombreux que d'autres. On a des personnes qui sont plus jeunes que d'autres. On a des profils assez différents. Et grosso modo, on est sur des profils de risque, c'est-à-dire des personnes qui appartiennent à un groupe de personnes qui présentent une probabilité plus ou moins de récidiver qui est moyenne. Ça, c'est compliqué pour nous de le faire. Dans tous les pays européens, on utilise des instruments d'évaluation pour ça. Tous, vous allez en Écosse, vous allez au Portugal, vous allez en Belgique, vous allez en Allemagne, vous allez n'importe où. Au Danemark, on utilise des instruments d'évaluation qui sont validés. Ça aide les professionnels à bien cibler ce sur quoi on doit travailler et à bien constituer des groupes pour des programmes. En France, on n'en a pas. Donc ça, ça vaut ce que ça vaut, et peut-être bien qu'on s'est trompé. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le programme a plutôt bien fonctionné parce qu'on n'a pas eu d'abandon au cours du programme. Le travail, et j'en terminerai là-dessus, mais tout le travail qu'on fait quand on implante un programme, c'est ça. C'est des manuels, on les adapte. Donc vous voyez la version 2012, la version 2019, une version adaptée pour la France. C'est beaucoup sur de l'esthétique, mais par exemple, vous avez un manuel pour l'animateur et vous avez un manuel pour les participants. Pour les participants, on s'est retrouvé face à un petit problème. Dans notre groupe, la plupart ne lisaient pas. Pas parce qu'ils n'aimaient pas lire, parce qu'ils ne savaient pas lire. Sauf que dans nos manuels de participants, il n'y a que de l'écrit. Donc il a fallu faire une version écrite et une version graphique pour s'adapter aux besoins des personnes. Et à chaque fois, voyez un exemple de travail, ça c'est l'atelier 1. On va travailler sur ces différents aspects. On a aussi créé des supports d'animation comme des affiches qui viennent soutenir tout ça. Mais au bout du bout, vous avez aussi entre les séances des exercices comme ça qu'ils vont devoir faire pour s'auto-évaluer, mettre en application les exercices. Mais quand on a fini le programme, on a fait tout ça. C'est pour ça qu'on peut dire « Ouais, tranquille de chat, ton truc, là, prendre à respirer, je pense que tu nous prends pour des ânes, quoi. » Ouais, mais il y a le premier atelier, c'est quoi un déclencheur interne, un déclencheur externe? C'est quoi les techniques pour s'arrêter? Mais après, c'est quoi l'anticipation, l'autosuggestion? C'est quoi anticiper le cycle de la colère et le mettre en pratique, là, par rapport aux situations foireuses qu'on a vues tout à l'heure? Et aussi des techniques alternatives à la violence, comme se retirer, faire face à la colère de l'autre, et ainsi de suite. Et l'appliquer dans le quotidien. Donc ces programmes-là, vous voyez, ce qu'il y a de particulier, d'une, ça se fait dehors, c'est auprès des personnes qu'on accompagne, et ça vise à développer des apprentissages comportementaux, et aussi dans des apprentissages au niveau cognitif, d'autres façons de penser. L'avantage, c'est que là, on a des personnes qui vont être suivies plusieurs années, qui rencontrent des difficultés quotidiennes, et on les aide à faire face à ce genre de situation. Pour beaucoup, au cours du programme, on aurait pu probablement avoir des passages à l'acte, qui peut-être n'auraient entraîné aucune condamnation. On a beaucoup de faits de violence qui donnent lieu à aucune poursuite. Bah, une soirée, il y en a un, il vient me chercher la bagarre, je lui défonce la tronche, il ne se passe rien, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien. Mais il y a des passages à l'acte qui peuvent avoir lieu, comme ça, c'est le chiffre noir de la criminalité. Et il y en a d'autres, par contre, qui peuvent entraîner des poursuites immédiates. Donc ça vous donne une idée de tout ce travail important qui est en cours de développement dans nos pratiques. On introduit des programmes et on essaie, en se formant, derrière tout ça, il y a des programmes de formation avec une supervision par d'autres pays, en l'espèce, c'était un centre d'expertise jeunes en difficulté du Québec pour aider à mettre en place ce genre de choses.